les généalogies des névroses, elles sont sexuelles, et souvent un traumatisme. Freud fait savoir que quand il y a névrose, quand il y a hystérie, il y a eu abus sexuel en amont, et essentiellement abus sexuel. Breuer ne pense pas que tout se résume ou tout puisse se résumer à des abus sexuels. Il a une conception beaucoup plus large du trauma. Il s'agit donc de donner un prénom qui fasse sens à Mathilde. Et Mathilde, c'est le prénom de la femme de Joseph Breuer. Breuer a été vraiment un père pour Freud, qui n'en avait pas réellement, qui en avait un physiquement bien sûr, mais qui en même temps n'était pas à la hauteur de la tâche de père, qui n'était pas la loi, qui n'était pas susceptible d'être admiré, qui ne pouvait pas fournir un idéal du moi. Donc Freud a considéré qu'il fallait transformer cet homme en père. Évidemment, Freud se fâchera avec lui. Je dis évidemment parce que c'est aussi un tropisme chez Freud qui se fâche beaucoup, et après avoir beaucoup utilisé. Et quand il a beaucoup aimé, il déteste beaucoup, il se met après à agonir les individus. Il aura l'occasion de croiser Breuer dans sa rue et il évitera même de le saluer. Lui prétend que Breuer aurait été jaloux du succès de Freud, comme ça évidemment c'est facile. La réalité est que Breuer a donné beaucoup d'argent à Freud pour le soutenir, simplement, comme une espèce de père de substitution. Et le jour où Freud a commencé à gagner de l'argent, il a proposé à Breuer de le rembourser. Et Breuer a eu le geste élégant de refuser le remboursement. Donc c'était une déclaration de guerre, parce que ou il acceptait et Freud n'acceptait pas, ou il n'acceptait pas et Freud n'acceptait pas non plus. C'était une espèce de piège que de proposer le remboursement de sommes qui auraient été versées sous le signe de l'amitié. Ce prénom, d'une certaine manière, il est sous le signe de la généalogie de la psychanalyse, de l'invention de la psychanalyse. Jean Martin est le fils qui suit et qu'il naît, lui, le 7 décembre 1889. Jean Martin, c'est le prénom de Charcot. Et dans une lettre à Martha, datée du 24 novembre 1885, c'est sa fiancée, il écrit « Freud, aucun autre homme n'a jamais eu autant d'influence sur moi ». C'est un personnage qui joue un rôle majeur dans l'économie de la pensée de Freud, bien sûr. Il a obtenu une bourse par Ernst Brücke, on va le voir réapparaître un petit peu tout à l'heure, mais qui lui permet d'aller à la Salpêtrière. Et la Salpêtrière, c'est un grand moment mondain. Freud fait d'abord de l'anatomie de cerveau d'enfant, il fait de l'histologie, il travaille sur les cellules, et puis il assiste aux fameuses leçons de Charcot, qui sont vraiment des leçons mondaines, une espèce de théâtralisation. Il faudrait expliquer comment la naissance de la photographie, on n'est pas encore à la télévision, mais comment la naissance de la photographie a pu générer cette espèce d'hystérisation d'un certain nombre de patientes aussi. Enfin, ça c'est une hypothèse que j'ai, je n'ai pas le temps de la développer ce soir, mais l'idée que on n'est pas le même quand il y a un appareil photo, encore moins quand il y a une caméra, et qu'effectivement, il y a une hystérisation des rapports. Il y a eu une hystérisation des rapports avec les patientes de Charcot à cette époque-là, et c'était un grand événement mondain. André Bouillet a d'ailleurs peint quelque chose qui s'appelle la leçon clinique du docteur Charcot, que vous avez vu et revu. C'est une peinture qu'on voit un petit peu partout. Et Freud a acheté, quelque temps plus tard, une gravure de cette peinture, et il l'avait accrochée dans son cabinet, juste au-dessus de son divan. Il a souhaité entrer dans l'intimité de Charcot et, pour ce faire, lui a proposé de traduire le volume 3 de ses leçons sur les maladies du système nerveux, ce qu'il fera. Et il prendra l'initiative de quelques notes en bas de page. Et d'ailleurs, Charcot fera savoir que c'était très bien d'avoir pris ces initiatives. Il est invité chez Charcot, Freud, à cette époque-là. C'est un jeune garçon, c'est un jeune homme. Il consomme de la cocaïne, déjà, beaucoup. Il fait savoir qu'il en a eu besoin pour aller à ses soirées mondaines, et j'ai déjà eu l'occasion de vous dire qu'il avait fait savoir à sa fiancée par courrier, alors qu'il lui demandait de ne même pas regarder les garçons, que finalement, il aurait peut-être pu séduire une des filles de Charcot, ce qui aurait accéléré évidemment son trajet. Le signe associé à ce prénom, eh bien, c'est le moment du renoncement à l'anatomie chez Freud et le passage à la question de la maladie mentale, pour le dire entre guillemets, ou de l'hystérie, ou de la névrose. C'est-à-dire que Freud laisse de côté la question du laboratoire et de la recherche, et ce qui l'intéresse désormais, c'est la question du traitement des pathologies mentales. Et on croit à l'époque, Forel, Charcot, Bernheim et tant d'autres, et l'école d'hypnose à Nancy, qu'on peut mettre les gens sous état d'hypnose et leur demander d'aller chercher dans leur inconscient un traumatisme qui sera susceptible de les guérir parce qu'ils auront conscientisé ce traumatisme. Et les leçons d'hypnose, qui sont des leçons publiques, font voir des femmes en catalepsie ou des femmes qui rentrent dans des transes et dont on dit qu'elles étaient aveugles, elles ont retrouvé l'usage de la vue parce que, par exemple, c'était une cécité hystérique et que l'hypnose est susceptible de soigner et de guérir. Olivier, troisième enfant, né, lui, le 19 février 1891. On aura l'occasion de revenir sur cette question-là parce que je consacrerai un long développement, une séance entière à la question, au moins, à la question de la politique chez Freud. La carte postale consiste